France Musique. France Musique, les grands entretiens. Judith Chen.
Je m'appelle Isabel García Sanz, je le dis avec l'accent espagnol. Je suis née à Madrid, la fecha, j'ai pas de complexe, un 29 juin 1934. Et je suis soprano lyrique.
Dans les femmes espagnoles qui ont chanté et qui ont marqué quand même l'histoire aussi du chant espagnol, il y a quand même deux femmes qui sont très importantes, deux Conchita d'ailleurs, Conchita Supervia, c'est ça, et ensuite Conchita Badia dans différents registres. Ce sont deux femmes très importantes. Non, mais elles sont importantes dans l'histoire du chant.
J'ai trouvé une chose, c'était une très grande chanteuse, tout le monde l'aimait. Moi, je n'aimais pas la voix qui sont trop des grelots. Oh, c'était son truc, c'était sa voix, tout le temps. Moi, c'était pas mon cas, chez moi-là. Conchita Badia, je l'ai connue à Madrid, oui, où elle est venue donner un récital à l'Ateneo, un site très, très, qui a beaucoup de... On fait des très grands récitals, un peu comme Gabo ici, l'Ateneo. Et j'ai entendu cette femme qui avait à cette époque, je crois, 72 ans, 73 ans, avec Alicia de la Rocha au piano, qui a chanté Granados et de Falla. J'ai pleuré tout le temps. Alors quand je suis venue à Barcelone, parce que papa avait été muté à Barcelone après, je suis allée la voir. J'ai dit, Conchita, je voudrais travailler avec toi les Granados et les de Falla. Parce qu'elle avait été accompagnée par Granados et de Falla. Donc, elle m'a dit, je connais des tonadillas, je peux vous dire tout ce que Granados voulait, parce qu'elle me l'a même marqué sur mes partitions. Et Falla, c'est pareil. Et en plus, elle vous donnait des exemples. Oh, qu'elle avait plus de 80 ans. Des exemples, vraiment. J'ai encore les petites cassettes. Mais elle n'a pas vécu beaucoup en Espagne. Elle était en Argentine.
C'est exilée.
Oui. Donc, c'est pour ça qu'elle est venue très tard en Espagne. Et quand j'ai découvert cette femme, pour moi, Conchita, c'était... Elle m'a fait découvrir vraiment ce que c'est la musique. Pas les notes. Parce que donner des notes et donner la voix, c'est pas ça que la musique. La musique, c'est autre chose. Et quand j'entends quelqu'un qui m'émeut, c'est qu'il fait de la musique. C'est comme au piano, hein? Au violon et tout. Il y a des grands pianistes qui écoutent, ah oui, quel bon technique, oui, formidable. Mais so what? Rien du tout. Rien. Tandis qu'il y en a d'autres qui vraiment, quand tu les entends, tu dis, Ça, c'est de la musique. Il te joue des Schumann. Il te joue vraiment les choses comme il faut, comme il faut. C'est que c'est cette espèce de magie qu'il y a dans la musique cachée, qui n'est pas à la portée de tout le monde.
Est-ce que Conchita Badia vous a donné peut-être aussi cet amour de la musique de son temps, c'est-à-dire qu'elle qui avait travaillé avec les compositeurs, vous, c'est quelque chose que vous avez beaucoup fait. Est-ce que, de ce côté-là, vous diriez que ça a aussi été peut-être une inspiratrice de vous rendre compte à travers elle qu'elle, elle avait eu la parole de Granados, elle avait
Exactement,
eu la parole...
Exactement, parce que moi, quand je suis allée la voir, je chantais déjà Granados et de Falla. Mais après, c'était autre chose. C'est comme j'ai travaillé avec Rodrigo. Je suis allée le voir moi-même chez lui à Madrid. Et il était aveugle. Et quand j'avais ouvert la porte, il m'a dit « Ah, tu es toujours, estás siempre tan guapa. Tu es toujours aussi belle. » Oh, qu'il était aveugle. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, j'ai travaillé avec Monsalvache, Las Cinco Canciones Negras. Donc, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir retrouver, comme Toldra aussi, qui était un grand chef d'orchestre, aussi Monpou, aussi, que je connais très bien aussi, donc Guridi, Jesús Guridi, Las Canciones Castellanas, il était directeur de notre conservatoire à Madrid, donc on a tous travaillé avec lui, c'est Las Canciones Castellanas, No Quiero Tus Avellanas, et Mañanita de San Juan, tout, on l'a travaillé avec Guridi, donc je vous dis que et moi, Loana, moi je sais ce que Loana voulait, parce que j'ai travaillé avec lui et je sais ce qu'il voulait. Alors qu'on ne me raconte pas d'histoire après. Hein. Ah non, non.
Ça, ce dialogue avec le compositeur, c'est quelque chose que vous avez toujours aimé.
Ah oui.
Et avec les compositeurs morts, vous dialoguez aussi? Quand vous travaillez Monteverdi, quand vous travaillez Mozart?
Ah oui, Monteverdi, ce n'est pas une question que j'ai dialogué, c'est que j'ai eu aussi un apprentissage, d'abord, un apprentissage très important à Kleinborn. Parce que l'Ormino Cavalli, c'est de l'époque. J'ai eu là-bas, à Kleinborn, des gens formidables. Autant à Vienne, c'est pareil. J'ai eu Eric Verba, qui vraiment vous accompagnait tous les cycles de Schubert par cœur. Comme Irène Aitoff était capable de t'accompagner le Scheherazade de Ravel à Paris, par cœur.
Avant de partir en Autriche, si on se souvient encore un peu de l'Espagne, il y a un genre dont on n'a pas du tout parlé, mais j'imagine qu'il a pourtant accompagné sans doute vos années de début de chanteuse en Espagne, c'est la zarzuela.
Ah oui, j'ai chanté la zarzuela, au théâtre de la zarzuela. J'ai chanté, j'adore la zarzuela. Et j'ai fait chanter mes élèves, j'ai une élève russe qui me chante la zarzuela comme ça.
Parce que ça, c'est un genre, la zarzuela, qui est un genre aussi très ancien
et qui est
un peu entre l'opéra comique, le Singspiel, etc. J'imagine que...
Mais c'est très difficile.
C'est ça?
On imagine que la zarzuela, c'est que... Mais c'est comme l'opérette. L'opérette est très difficile, hein, pour bien chanter. Pas n'importe comment.
Et puis pour bien parler.
Exactement.
Parce que ça, c'est aussi la difficulté, c'est se parler, chanter. Et j'allais dire, quelques-uns peuvent botter en touche et ne pas vraiment parler. Et puis d'autres prennent le risque, véritablement dans les moments parlés, de prendre leur voix de poitrine et de jouer
sûr,
avec la voix parlée.
Passe, la
et dans ces cas-là, c'est très difficile.
On ne peut pas faire comme ça. Non, tu ne peux pas. Il faut que ça passe.
Vous avez évoqué des années d'art dramatique, Isabelle Garcisens.
Oui.
Jouer, on sent que ça fait partie. Il y a chanter, mais il y a jouer aussi. Incarner, jouer, le théâtre.
J'adore. Il y avait toute une tirade de La Prudence chez la femme de Tirso de Molina, qui était très dure, qui durait un quart d'heure. Et j'ai dit, j'ai pu faire ça, tout ça. Mais il a fallu que je le quitte. Parce qu'après, quand j'allais voir Ángeles Otaín pour mes cours, il me disait, ça y est, tu as eu ton cours de ce matin dramatique. Parce que j'aimais les rôles très dramatiques.
Vous aimiez jouer les tragédiennes?
J'adore. Moi, tous les rôles. Et pourtant, j'ai fait toutes sortes de rôles. Mais bon, dans les Noces de Figaro, j'ai fait les 5 rôles. Donc, c'est voilà, Susanna, c'est autre chose. Et ben, c'est, elle fait le ménage tout le temps. Et puis, début à la fin, la pauvre Susanna, c'est... après, j'ai fait Kerouvi, non? Non, avant, j'avais fait la petite, là, comment elle s'appelle?
La Spina.
L'ho perduta me meschina. Voilà, la della Spilla, exactement. Je l'avais fait à Lausanne, au Festival de Lausanne. Et imaginez-vous que c'était Pritchard qui dirigeait. Il vient après mes voix et me dit, je voudrais que tu auditionnes, je voudrais que tu auditionnes pour Kleinborn. C'est grâce à ce rôle-là, l'ho perduta me meschina, qu'il m'a fait auditionner, j'étais engagée à Kleinborn. Je suis allée 6 années de suite. C'est pour ça que quand on me dit ça, je n'arrive pas à les chanter, j'ai dit, écoute, s'il te plaît, j'étais engagée à cause de ça, chante-le bien, l'ho perduta me meschina, j'ai fait comme il faut faire. Tu comprends, tu vois, en plus, l'atmosphère est tellement merveilleuse quand il sort là à la scène, presque dans la pénombre, tu vois, avec ta lampe, tu vois ça. Et l'orchestre qui est tout en nuance, ah, quel plaisir.
En tout cas, vos parents vous ont toujours encouragé.
Ah, toujours. Maman s'est déplacée, est venue à Nice me voir parce que j'avais débuté à Nice dans ma première Tserlina avec José Van Damme, avec Andrea Guyot, Teresa Sigara, Sénéchal, Jacques Doucet et Baudot. C'était dans les années 67. On était jeunes, hein? Ouh là là. Et on a débuté ensemble, là. Et André Aguillot était génial. Qu'est-ce qu'elle chantait bien, cette femme. Elle chantait merveilleusement bien. Et bien, qui n'en parlons pas? Formidable. Et Michel Sénéchal, alors là, le contori de Vienne avec Michel Sénéchal s'est assez roulé par terre.
Silence, taisez-vous, mettez-vous en prière, ou bien c'est fait de nous. Toi que je révère, entends ma prière. Ô Dieu, tu t'élèves, viens dans ta bonté, sauver l'innocence, et que ta puissance un jour récompense l'hospitalité, un jour récompense l'hospitalité, l'hospitalité.
Isabelle Garcisens, après Madrid, vous allez avoir une bourse. Vous aviez déjà une bourse parce que vous étiez excellente pour les études au conservatoire à Madrid. Et puis, vous allez obtenir une bourse aussi pour partir étudier à Vienne.
Pour l'Académie für Musik.
Pour l'Académie für Musik. Vous parlez déjà l'allemand grâce à votre père qui vous a mis aux langues très, très tôt.
Jawohl.
Et vous vous retrouvez donc à Vienne. Qu'est-ce qui se passe? On est en quelle année? On est au début des années 50?
Des années. Oui, j'avais 20 ans. Mais je me demande comment j'ai fait. Parce que je suis arrivée et déjà, on m'avait loué une chambre chez un très bon dentiste près du Staatsoper, à la Wiener Hauptstrasse. Et là, monsieur et madame Arendt, évidemment, heureusement que j'ai parlé l'allemand, je me suis présentée avec ma valise et j'ai dit, ich bin Isabelle Garcisens. Oh, ja, 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 jawohl, jawohl. Oh, my God, kommen Sie das. Bon. Et j'avais une très grande chambre énorme et j'étais très très bien. J'avais les trams qui passaient là, qui me déposaient au Volksoper pour les répétitions. C'était à côté de l'académie. Ah, je me suis tout de suite intégrée. Hein.
Et là, vous apprivoisez forme de solitude.
J'ai quitté ma famille d'Espagne, j'étais jamais sortie toute seule. Papa m'a donné un tas de conseils avant de partir, évidemment. Il m'a dit, tu te méfies même de ton père là-bas. Hein? Ah oui. Il dit, parce qu'ils vont venir là, évidemment, ils venaient. Parce qu'ils venaient très sympas, tout ça. Méfie-toi, tu ne parles à personne et tu fais très attention. Et j'ai fait très attention. Ah oui. Alors voilà, je suis restée là-bas. J'ai vu le consul d'Espagne, qui était sa fille, qui était de mon âge. Et très bien, il était très gentil, il m'avait invité à déjeuner. Mais comme je ne voulais pas dépenser les 1 000 $ que j'avais pour là, hein, j'ai mangé très peu. J'ai mangé simplement un truc comme ça. et une saucisse avec ça, avec Apfelsaft, et puis un Palatschinken, c'est-à-dire une crêpe avec de la confiture. C'est tout ce que j'ai mangé pratiquement. Alors quand 9 mois après, le consul me dit « Alors comment tu vas? Tu viens déjeuner ?» Il me dit « Qu'est-ce qui t'arrive ?» J'avais maigri de 6 kilos. Je ne mangeais pas. Je travaillais beaucoup et j'avais très froid. Et je ne voulais pas dépenser de l'argent. J'ai porté des talons comme ça. En plus, en jupe, pas en pantalon. Ça ne se portait pas à l'époque. En jupe, en pantalon, avec des neiges comme ça, à moins 10. Et les soirs, on avait tous des places pour écouter au Staatsoper. Klemperer, Kleiber, Schwarzkopf, Fischer-Dieskau, Christa Ludwig, tout le monde, Wunderlich, merveilleux, tout. Debout. J'écoutais tout le Ring, debout. 4 heures, debout. Mais j'avais 20 ans.
C'est quoi vos grands souvenirs, vos grandes émotions, justement, de vous, spectatrice,
ah, mais c'est
20
ça,
ans?
Ah, mais c'est ça, c'est ça. C'est ça. Tout ce que j'ai vu, t'as les des Rosenkavalier avec Anneliese Rottenberger, Schwarzkopf, c'était Christa Ludwig qui faisait Octavian. Et vraiment, c'était extraordinaire. Extraordinaire. J'ai un souvenir, mon premier souvenir de la fin des Rosenkavalier. De toutes les trois là en train de chanter là. C'est une chose qui m'a... J'aurais pu aller en Italie. Pourquoi pas? J'ai quand même plus près, j'adorais la musique italienne aussi. J'ai chanté déjà des Puccini. Mais étant donné que j'aimais beaucoup les leads, et le meilleur professeur c'était Eric Verba, qui était à l'Académie, qui accompagnait Christa Ludwig, qui accompagnait tous les gens, les meilleurs là-bas. Et puis, étudier un rôle de Mozart. Je voulais étudier Pamina. Je suis allée, je me suis présentée. Je lui ai chanté un lead, je me suis dit, Anne Sylvia, je l'avais chanté d'abord. J'ai écouté, on était beaucoup, de toutes les nationalités. Alors là, on était toutes là. On écoutait, j'écoutais. J'ai fait avec lui, je ne sais pas, en un an, on avait 3 fois par semaine, on allait. Je crois que j'ai bien fait une trentaine de leaders avec elle. Et puis, je voulais chanter la Pamina. Et comme j'avais la technique pour faire les pianos, je me suis présentée à un petit concours qu'il y avait là-bas. Et j'ai gagné le prix avec Pamina. Rôle que j'ai abandonné après, mon audition au lycée avec Pamina, où j'étais engagée pour faire Marcellina de Fidelio. Parce que c'est un rôle où je me sentais comme si j'avais des murs autour de moi. C'est-à-dire que je ne pouvais pas avoir la Fiordiligi, ou bien la Comtesse, ou bien tous les autres. C'était quelque chose. Je l'ai laissé. Il me dit, mais pourquoi tu l'as laissé, tu le faisais? Non, c'est un rôle qui est vraiment, il faut avoir une intériorité, et puis tout le temps, tu n'arrives pas. Même quand tu veux que t'amino, à la fin, bon, d'accord, très bien, mais c'est toujours comme ça. J'avais besoin d'autre chose.
Thank you.
Comment il était, Éric Verba?
Ah, c'était un homme très autrichien, avec un accent. Jawohl. Nettige Frau, wie geht's? Un accent qu'ils ont les Autrichiens. Je suis venue après avec un accent autrichien que je ne vous racontais pas. Mahlzeit, parce que toutes les A sont comme ça. Pour lui, il n'aimait pas l'école allemande parce qu'il disait qu'il était trop rigide et qu'il faut avoir beaucoup plus de ça, plus à l'autrichienne, quoi. Comme il aimait. Il était très sympa. Il était très sympa. Je me souviens qu'il était venu à la première, quand j'ai fait l'enfant, dans l'enfant, les sortilèges, il y avait Maddy Mesplé, qui faisait le feu et les rossignols. Il y avait Lucia Pop, qui chantait merveilleusement bien. Qu'est-ce qu'elle était bien, cette fille qui chantait. Et Michel Chenessal, qui faisait l'arithmétique. Oh là là, c'était unique. C'était vraiment, c'était Peter Mark qui dirigeait. Et puis après, avec Lucia Pop, oui, là, j'ai fait les contori. En allemand. J'ai débuté en allemand, Der Graf Ori.
Oui, mais ça, c'est l'époque où on chantait dans
l'époque. La même époque. Un jour, j'ai chanté l'enfant et le lendemain, les contori.
Oui, ce que je veux dire, pour les auditeurs de France Musique, c'est que c'est une époque aussi dans les années 50, même les années 60, où les opéras sont chantés dans la langue du lieu, du théâtre.
Oui, comme ici, là, à l'opéra comique, on faisait la bohème en français et tout ça. Etc. Oui. Et j'avais au début, quand on a débuté, un très bon ténor hollandais qui s'appelait John van Kesteren. Tout d'un coup, il dit qu'il faut qu'il s'en aille. Et Bernard Lefort demande à Michel Sénéchal de le faire. Donc, il a dû l'apprendre très vite. Et il est venu. Alors, la vacherie du cœur. Il n'avait pas eu le temps, quand ils sont tous habillés en nonne, où ils chantaient tous ensemble. Je sais que la première fois, je l'entends, j'ai dit... J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Je comprenais pas. Les cœurs l'ont laissé tout seul. Ils se sont tués, les salauds, tout seul, comme ça. Alors quand il est rentré, ah oh, quelle catastrophe, la catastrophe, c'est catastrophique.
Il n'avait pas eu le temps de tout apprendre.
C'est vache, c'est vache, c'est une vacherie que lui. J'ai dit, écoute, étudie le soir, parce qu'il n'est pas long. Oui, mais je n'ai pas eu le temps de travailler, c'est pas possible. Mais oui, bon, il avait travaillé après, on a fait pas mal de spectacles, et on l'a fait à Marseille après. Et à Marseille, je n'avais pas le temps de travailler la comtesse en français, c'était Lilian Berton qui l'a fait. Il m'a dit, tu ne peux pas faire Isolier, si tu veux, le page. Oui, comme en plus, il y a des Sibécard et tout ça. Ça, je l'ai appris très vite. En un mois, je l'ai appris parce que c'est pas long, Isolier. Et voilà, on l'a fait. Et pareil, il y avait Jean-Christophe Benoît. Et Michel Sénéchal a pleuré de rire. C'était impossible. Avec tous les deux. C'est comme le Così fan tutte à Strasbourg, avec Jean Berbier, qui faisait Dorabella et moi, Fiordiligi. Et les deux, Sénéchal, et Jean-Christophe Benoît, vous ne pouvez pas savoir ce que c'était. À tel point, on riait que je m'arrêtais de chanter. Et les chefs d'orchestre, M. Adam, disaient, c'est pas sérieux ce que vous faites. Parce que quand je ris, je ne peux pas chanter. Avec Jeanne qui est rieuse, comme il n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on a dit? On a passé des moments extraordinaires.
La voix de l'espiègle Jeanne Berbier, dirigée par Scholti, ici dans Così fan tutte de Mozart, pour refermer le troisième épisode des grands entretiens avec sa complice Isabelle Garcissens. Réalisation Gilles Blanchard, prise de son Raymond Alboui, mixage Pierrick Charles, attaché de production Flora Sternadel. Suite de ce portrait demain à la même heure. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.